Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces échanges de ce matin. Merci pour cette communion. Merci pour ta parole, car c'est une question sérieuse que de décider si nous voulons te suivre ou pas. Tu nous proposes de nous côtoyer dans notre vie, ici dans ce monde. Tu nous appelles et tu nous demandes si on veut vivre dans ce monde avec toi. Ou est-ce que nous voulons être seuls? Nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous nous contentons de nous-mêmes. Tu nous tends cette main tous les jours. Cette main que des personnes souffrent, crient vers toi pour la saisir. C'est dans leur souffrance qu'ils crient vers toi. Que dois-je dire, moi, dans ma tranquillité? Et pourtant, moi aussi, tu la proposes, cette main. Je veux la saisir, car je veux vivre cette éternité ici-bas, avant de la continuer quand j'irai te rejoindre. Merci aussi pour ces paroles que nous allons partager, que je remets entre tes mains. Des paroles limitées, beaucoup de subjectivité, mais Seigneur, tu transformes tout, toi Seigneur. C'est pourquoi je te prie que des paroles qui vont être partagées, que mes frères et sœurs la reçoivent, s'il le faut, différemment, que tu parles à chacun d'eux, chacun d'elles, selon ta volonté, toi seul. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Tout d'abord, je vous transmets les salutations des frères et sœurs Action Biblique France. On était là cette semaine, la première fois. Donc, Fred Bicon, qui est le président, donc il a dit, de transmettre les salutations. Eh bien, je les transmets. D'autre part, je ne peux que me réjouir que de voir qu'il y a des frères et sœurs dans le monde. À notre niveau, on ne les connaît pas, on devine, mais qui souffrent. À travers l'histoire, les chrétiens ont souffert. Il suffit de prendre sa Bible, de l'ouvrir et de lire. Les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres. Et quand j'y pense, sincèrement, mes frères et sœurs, je dis, j'ai beaucoup de responsabilités ici en Occident. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous, ces frères et sœurs qui souffrent? Ah, il y en a, ils vont dire, ah, il faut les aider. Non, ils ne demandent plus que ça. C'est trop facile, ça. Celui qui a beaucoup d'argent, il va aider, pas de problème. Ils veulent qu'on soit avec eux dans une communion de souffrance. Là, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Est-ce que je suis triste quand j'entends leur souffrance? Ou est-ce que quand je sors d'ici, je continue ma vie? Heureux! Est-ce que je sais, à cet instant même, là, au Nigeria, il y a des chrétiens qui sont tués, exécutés? Est-ce qu'on sait qu'il y a des chrétiens au Moyen-Orient qui sont, en ce moment même, là, on est en train de parler, dans des prisons, dans des geôles, dans la souffrance? C'est très intéressant que chacun de nous puisse s'examiner. Et ça, ça montre quel est notre niveau de communion avec ces gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on souffre aussi, hein. Je n'ai pas dit ça. Dieu ne nous appelle pas à la souffrance. Ça, c'est une maladie, ça. Il ne nous dit pas souffrez. Non, non, non. Quand la souffrance se présente, est-ce que je suis armé pour la traverser dans la paix avec le Seigneur? Ça, nous sommes appelés en tant qu'Église à vivre cela. Et pour traverser l'épreuve, si elle se présente un jour, c'est que nous soyons en communion avec le Seigneur. Tous les jours, en pensée, dans la prière, etc. Donc la vie chrétienne est une vie de paix, de joie. Un chrétien ne justifie aucunement, mais vraiment aucune raison, qu'un chrétien justifie le mal, y compris la guerre. J'ai assez entendu dans le milieu chrétien qui justifie la guerre. On m'a même dit, mais si tout le monde pense comme toi, bah tous les pays vont être envahis. Imaginons qu'en France, ils sont tous chrétiens. Et ils appliquent ce que tu dis là, Abdel. Qu'il faut être pacifiste, il ne faut pas tuer l'autre, mais on va être envahi. Rien ne justifie qu'un chrétien fasse la guerre. Il faut se refuser ce type de raisonnement. Rien ne justifie que je fasse du mal à l'autre. Rien ne justifie que je lève la main sur l'autre ou quoi que ce soit. Et si vous n'avez pas, si vous croyez pas ce que je dis, regardez ce que le Seigneur a fait. Il était capable de descendre de la croix. Il était capable de punir tous ceux qui le rejetaient. Il en était capable, puisqu'il faisait des miracles, et même les démons lui obéissaient. Il pouvait, tous ceux qui voulaient lui faire du mal, hop, d'un seul coup, hop, les exécuter. Rappelons-nous quand on est venu l'arrêter au jardin Gethsémané. Un de ses disciples a pris l'épée et il a attaqué un de ceux qui venaient le chercher, on lui a coupé l'oreille. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, t'as bien fait? Il lui a dit, reprends ton épée. Il a pris sa main et il a guéri miraculeusement cette personne-là qui est venue le chercher. Et il était guéri. Et il leur a dit, faites votre boulot. Alors si un jour, mes frères et sœurs, on vous dit qu'un chrétien peut faire la guerre, fuyez. Rien ne justifie. Je voulais vraiment partager cela avec vous parce que je l'ai entendu. Et je voulais partager avec vous. On est une foi de paix, de grâce, d'amour, y compris aimer ses ennemis, mais pas de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui aime à travers nous les ennemis. Et si nous sommes proches du Seigneur, on aime nos ennemis, pas par nous-mêmes, encore une fois par le Christ. Alors, toutes mes pensées vont pour tous ces chrétiens qui souffrent, vraiment qui souffrent, ils sont dans nos prières. Je reviens maintenant à notre étude. Je vais essayer d'être bref quand même, ce n'est pas la peine de monopoliser la parole parce que ce n'est pas la quantité qui compte. Nous allons continuer notre étude sur l'évangile selon Marc. Et rappelons-nous, Marc c'est le concentré qui s'adresse à tout le monde, pas spécialement religieux, tout le monde en fait. C'est très simple comme évangile et qui nous présente le Seigneur Jésus. Si vous voulez, en fait, si vous débutez dans la foi, lisez l'évangile de Marc. C'est très simple. Et nous présente le Seigneur comme étant le Fils de Dieu, le Christ Fils de Dieu. Et là, nous sommes dans le chapitre 3. Et je vais lire avec vous les versets 7 à 12. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain. Et des environs de Tyr, de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Voilà un passage. Nous avançons bien dans l'évangile de Marc. Et nous arrivons maintenant, on est au milieu du chapitre 3. Et ce passage-là vient en fait comme un pont entre ce que nous avons raconté avant et ce qui va se passer après. Le passage que nous présentons dans la suite est un résumé qui sert de transition entre ce que nous avons jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre devant nous. Alors, au début, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, le Seigneur avait choisi certains de ses disciples. Je vais faire un petit résumé. À partir de ce moment, il a commencé la formation de ce petit groupe. Et on sait que ce petit groupe, c'est tout simplement Simon et son frère. Deux. Il a choisi deux au début. Il a commencé son ministère. Ça nous rassure. Deux. Il n'a pas choisi 1000. Deux. Pourquoi il a choisi deux? Et deux qui étaient prêts à le suivre. Ramenons ça à notre Église, à la vie chrétienne aujourd'hui. Quand on fait un message comme celui-là, c'est pas de la théologie. Ça ne nous intéresse pas de faire l'histoire de la théologie. La question qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce qu'on fait là? Si nous le ramenons à nous, chrétiens, à notre Église, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les messages que nous entendons, il faut les ramener à sa vie privée, et à la vie d'église. Sinon, ce n'est même pas la peine. Je peux vous donner des sites qui vous raconteront l'histoire. Donc, à chaque fois que je lis des passages comme ça, que je prépare le message, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en tant que chrétien, hein? En tant que citoyen, en tant que mari, en tant que père, en tant que frères et sœurs de cette église. Quel est le message pour l'église? C'est ça qu'il faut tenir. C'est ça la nourriture spirituelle. Eh bien, le Seigneur avait choisi deux. Ça encore une fois, nous ramène à sa parole quand il dit quand deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc l'église, ce n'est pas la quantité encore, mes frères et sœurs. Parce qu'à chaque fois, je me révolte contre ça. On m'a déjà dit, votre église n'est pas remplie, donc Dieu ne bénit pas. Et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ça veut dire que quand l'église, il y a des milliers, hein, aux États-Unis, etc., ah, Dieu est là. En contradiction encore avec la parole de Dieu. Dieu a choisi deux qui étaient prêts à donner leur propre vie pour lui. Il aurait pu avoir 1000, mais on va le voir, la foule s'est sauvée. Il en restait deux avec lui pour le moment. De quel camp nous sommes? Est-ce que c'est deux? Ou est-ce que c'est 1000, mais moindre adversité, moindre épreuve? Au revoir. Ou on cherche le compromis? Le contenu de l'enseignement de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant tourne autour de la relation de Jésus avec la religion juive. Jésus, quand il est venu se confronter tout de suite à la religion, aux habitudes, à la tradition, avant même d'aller vers les autres. Très important. Quand on nous convertit, quand nous recevons le Seigneur, la première chose que le Seigneur attaque, nos habitudes, nos traditions. Oh, ça, je veux me libérer, mais pas ça. Il vient attaquer ça d'abord, avant de nous dire maintenant, prenons les mains ensemble, on va avancer. Nous avons commencé par voir que sa doctrine et la manière avec laquelle il enseignait avaient une autorité complètement supérieure à celle des scribes. C'est ce qu'il a dit dès qu'il est arrivé. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. L'autorité divine. Nous avons un Seigneur qui a autorité. Quand nous sommes en communion avec lui, c'est l'autorité qui est dans notre vie. Ça ne veut pas dire que je dois être autoritaire. Non, non. Je suis en communion avec son autorité et c'est lui qui est autoritaire sur ma vie. Nous avons aussi vu son autorité face au diable. Lorsqu'il chassait les démons et ne leur permettait pas de parler. Non seulement les diables le reconnaissent, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la Bible, ils savaient que c'était le Fils de Dieu. Mais comme il sait très bien leur cœur ne se retourne pas vers Dieu, mais vers le mal. Il avait autorité sur eux, mais il leur dit, taisez-vous. Ne me dites pas ça, attendez, parce que ce n'est pas le moment. Quant à sa relation avec la loi juive, nous avons vu qu'il était soumis à la loi et avait ordonné aux lépreux, par exemple, qui avaient guéri d'aller au temple afin d'accomplir ce qui avait été établi par Moïse pour la purification. Donc Jésus est bien venu, pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il n'est pas venu en confrontation, il a donné sens à la loi. Quant au pardon des péchés, on l'a lu jusqu'à maintenant, les sacrificateurs devaient offrir continuellement des sacrifices pour le pardon des péchés. Ils devaient le faire plusieurs fois parce que les sacrifices offerts ne servaient à rien puisqu'ils recommençaient à chaque fois les mêmes erreurs. Ça ne libérait pas du péché. Mais le Seigneur Jésus, contrairement à cela, dit aux paralytiques, rappelons-nous, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et parce que tes péchés sont pardonnés, et pour que les gens comprennent que j'ai autorité, surtout, lève-toi et marche. Il a montré son autorité divine par cet acte miraculeux, mais en même temps, il a donné le plus grand des miracles, celui des pardons des péchés, la réconciliation avec Dieu le Père. Mais nous trouvons d'autres différences entre Jésus et les sacrificateurs. Jésus s'est présenté comme le médecin divin qui s'approchait du pécheur pour le guérir et le sauver, tandis que les religieux s'éloignaient par peur d'être contaminés. Différence énorme. Le Seigneur va chercher le malade. Les religieux se détournent des malades en les accusant. Si vous êtes malade, il y a un problème. Jésus dit non. Les malades ont besoin de moi. Moi, je vais vers eux. Que ce soit maladie physique ou maladie spirituelle intérieure qui est encore plus grave. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est notre problème en Occident qui se présente comme riche, besoin, pas besoin de Dieu. À quoi ça sert? J'ai tout. Mais tant qu'on est dans cette attitude-là, ben, dit Seigneur, ouais, c'est vrai, vous n'avez pas besoin de moi. Reste comme vous êtes. Il est étonnant, pas étonnant, pour moi normal, que ceux qui reçoivent en général le Seigneur dans leur cœur facilement, c'est ceux les plus simples, les pauvres, quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais il y a quelque chose qui me manque. Le monde ne m'offre rien. Et quand le Seigneur tend la main, il la reçoit. Tous ses disciples, des gens simples, ils l'ont reçu, tendent la main, ils l'ont suivi. Par contre, le riche, il y en a un qui est venu le voir, il lui a dit, moi je crois, je donne ma dîme, etc. Mais quand tu lui as dit, où est ta priorité? Si au cas où un jour tu donnes tout et tu deviens pauvre, t'accepterais de me suivre? Il est parti tristement. Des fois, la liberté dans laquelle nous vivons, qui est une grâce, et remercions le Seigneur, merci Seigneur de nous mettre dans un pays, on vit dans la grâce, la liberté, tout ce que vous voulez, mais ça ne manque pas. Attention que ça devienne un piège qui nous empêche pour aller dans cette communion avec le Seigneur. Persécution, séduction, c'est la même chose. Jésus a aussi clairement expliqué que le royaume de Dieu qu'il annonçait ne devait pas s'établir en améliorant certains rites religieux du judaïsme. On ne doit pas juste améliorer quelques... Hein? Je viens le dimanche. Je viens le dimanche. Oui, je suis chrétien, je viens le dimanche. T'es chrétien, oui, mais je viens le dimanche. Mais non, le Seigneur dit c'est 24 heures sur 24, c'est tous les jours. C'est pas le dimanche. Et d'ailleurs, on voit bien que nos églises se vident, même là, se vident nos églises. C'est un signe, encore une fois, de cette sécheresse spirituelle. Que dans d'autres continents, c'est le contraire. Ça doit nous interpeller, ça, normalement, aujourd'hui. Que je regarde des infos, que je vois ce qui se passe dans le monde, malgré la persécution. Vous savez, en Algérie, par exemple, en Kabylie, les chrétiens, en fait, souffrent. Et plus on l'aime, plus on les persécute, plus le monde augmente. Plus il y a de chrétiens. Ça doit nous interpeller. Non, c'est le contraire. Nous, plus ça va, plus les églises se vident et les discothèques se remplissent. Vous voyez ? Le monde attire. Jésus n'était pas venu réformer un système religieux. Mais il était venu établir quelque chose de différent. Je ne sais pas comment l'appeler, ce quelque chose. Quelque chose de différent qui touche l'intérieur et l'extérieur. Il expliqua tout cela par le moyen de plusieurs paraboles que nous trouvons dans, que nous avons étudiées dans Marc chapitre 2. Et ces deux paraboles très parlantes qui résument tout le ministère de Jésus, qui résument toute la vie chrétienne dans laquelle nous sommes appelés. La première parabole, c'est le drap neuf. En fait, c'est la pièce de tissu qu'on met sur les vieilles habits. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Le drap neuf n'a pas besoin... vous n'avez pas besoin de rafistoler un habit. Il dit non, ça c'est la religion, ça c'est la morale, ça je vais faire quelque chose, je vais changer quelque chose dans ma vie, etc. Ça c'est rafistoler. Mais le vieil habit avec les pieds, avec le rafistolage, l'habit va se déchirer. Il va finir par se déchirer. Il a dit non, moi à la place, je prends tout cet habit à rafistoler, et je mets à la poubelle. Je vous donne un nouvel habit. C'est l'œuvre de la croix, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à nous améliorer. Le Seigneur veut non, carrément faire le contraire. Ça veut dire nous faire mourir et nous donner une nouvelle nature. Bien au sens, je parle du sens spirituel que je dis faire mourir. Quand on est avec le Seigneur, petit à petit, il nous transforme en nous donnant sa propre nature. La deuxième parabole qu'il a donnée, c'est le vin. Est-ce qu'on met le vin nouveau, est-ce qu'on le met dans des vieilles outres? Parce que si on le met dedans, l'outre, en fait, elle va casser. Mais justement, souvent, on cherche le Saint-Esprit. Et j'entends ici en France, à l'étranger, oh là là, j'entends ça. Notre Église est venue, Saint-Esprit, le miracle, le parler en langue, allons-y. Oui, mais le Seigneur, il a dit, non, occupons-nous d'abord de l'outre. L'outre, c'est qui? C'est nous. D'abord, vous soyez transformés selon la volonté de Dieu, et c'est Dieu qui décide de vous utiliser par son esprit, et non l'inverse. Sinon, ça finit par exploser. À la moindre adversité, à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, on sera parmi les premiers à prendre ses chaussures et courir. Comme nous avons vu, tous ces incidents de la vie de Jésus Tous les incidents que Jésus a vécu comme rejet nous aident à apprendre et comprendre la relation du royaume de Dieu que Jésus prêchait et qu'il nous offre. Chaque incident vécu par Jésus donne une confirmation de ce qu'il est. À travers les épreuves qu'on a vues jusqu'à maintenant, un petit résumé de ce qu'il est, à travers les épreuves. Il est l'unique maître. Les démons le reconnaissent comme le Saint de Dieu. Son autorité pour guérir et chasser les démons. Comme Dieu, il a autorité pour pardonner les péchés. Il est le médecin divin qui cherche les pécheurs. Il est l'époux annoncé par les prophètes. Il voyage avec ses disciples dans une mission sacrée, de la même manière que le roi David le faisait avec ses hommes. Il se déclare comme maître du jour, du sabbat, même de tous autres les jours. Mes frères et sœurs, c'est ce Seigneur-là en qui nous croyons. Il est Dieu lui-même parmi nous. Quand nous avons le Seigneur, nous avons tout. Et c'est lui qui ouvre les portes. Et c'est lui qui répond. Et c'est lui qui dispose de tout. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Quelle a été la réaction des leaders d'Israël face à Jésus quand il est venu annoncer tout ça pour leur dire ça? Voilà, je suis tout ça. Normalement, on devait l'accueillir bras ouverts. Ils disent, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, c'est écrit, Dieu va nous envoyer le Messie, qui est tout ça, ce que j'ai cité avant. Depuis la Genèse jusqu'à l'arrivée de Jésus, tout est annoncé. Je vais vous envoyer le Messie, mon fils. Quelle était la réaction? Ils l'ont constamment critiqué, comme le monde le fait. Parlez de Jésus dehors, vous verrez. Même des fois à des religieux qu'on s'appelle libéraux. Il y a des choses, il faut utiliser sa tête parce qu'il y a des choses dans la Bible. Presque il faut les gommer. Hein, parce que ça ne correspond pas à notre façon de penser. Les scribes, les religieux disaient, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Vous vous rendez compte, le Fils de Dieu, on entendait, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Alors que Dieu vient visiter ses enfants à travers son fils. Comment voulez-vous que Dieu vienne nous visiter? Je pose la question comme ça, quand j'étais musulman, je posais la question. Comment Dieu peut venir visiter? Avec une voix du ciel qui crie? Il n'y a pas d'autre meilleur. La meilleure méthode pour nous venir visiter, c'est qu'il devient comme moi, non? Hein, avec les enfants, quand on joue avec eux, qu'est-ce qu'on fait? On devient un enfant comme eux, non? Alors, des fois même, on se moque de nous. Des fois, on utilise des expressions enfantines. Mais ça ne va pas, non, il est devenu enfant. Parce qu'on se met au niveau des enfants pour être comme eux. Oui, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, il faut être comme, venez à moi comme des petits-enfants. C'est ça. Eh bien, Dieu est devenu enfant à ce point-là, entre guillemets. Il s'est descendu jusqu'à notre niveau, à nous. Vous vous rendez compte? Pour moi, c'est le meilleur amour, la meilleure preuve d'amour, celle-là. C'est même pas aller à la croix. C'est celle-là. Il est devenu comme nous, comme quelqu'un parmi nous. La Bible nous dit, c'est quelqu'un. Quand on le voit, on dit, c'est quelqu'un. Il n'y a rien de... Il a pris ma nature comme moi. Il m'a côtoyé. Il a vécu mes souffrances, mes joies, mes peines, tout. Il s'est rendu semblable à chacun de nous. Ça, c'est beau. Et quand il est devenu semblable à nous, il s'est rendu compte que par notre désobéissance, nous méritons le châtiment. Alors il a dit au Père, écoutez, non, je suis devenu comme eux, je sais maintenant ce qu'ils vivent. Oh là là, c'est vrai qu'ils méritent le châtiment. Mais épargne-les, s'il te plaît, Père, épargne-les. Moi, je vais à leur place. Et il est monté à la croix à ma place. Et il a payé le prix. Et qu'est-ce qu'il me demande? Abdel, je ne te demande rien. Rien du tout. S'il te plaît, Abdel, crois seulement. Et alors là, qu'est-ce qu'il me demande là? Demander de l'argent pour aider les pauvres, ben oui. Mais je me détache de moi pour croire en toi, ça veut dire en fait je vais perdre ma liberté. Croire? Non, pas question. Parce que quand je réfléchis avec ma tête, non. Et il continue à me tendre la main. Des jours, des mois, des années, toujours là, comme avec Pierre. Je suis toujours là. Jusqu'au jour où la carapace, je dirais, le voile se déchire. Oh Seigneur, tu as pris tout ce temps-là que tu m'as offert ta main. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas saisi. Pardonne-moi. Et je l'ai saisi. J'espère que ce que je vis là, ce ne sera pas le cas. D'autres, parce que c'est du temps perdu. Et j'en ai perdu du temps dans mon cheminement avec lui. Et en général, quand on le critique, petit à petit, on chemine vers le rejet, vers la haine, qui a poussé les religieux qui lisent la même parole de Dieu, la même Bible, à chercher à le crucifier. Et une décision prise le jour de Shabbat, comme on a fait la dernière fois. Ils ont décidé de le tuer le jour normalement qui est symbole de paix. Vous vous rendez compte? Le jour du Shabbat, normalement on dit il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire de mal, il ne faut rien faire, ne pensez qu'à Dieu. C'est ce jour-là qu'ils sont concertés pour dire comment faire pour le tuer. Voilà à quoi. Ça commence d'abord par l'indifférence. Oh, non, ça me dérange pas, mais je ne veux pas y croire. L'indifférence. Après, ça commence par utiliser sa tête, la critique. Le rejet, et ça peut cheminer vers la haine. Et regardez l'histoire, mes frères et sœurs, des croisades, et même, pas seulement les catholiques, la guerre des religions, le protestant était dedans aussi. Ça mène à la haine. La religion, ce n'est pas une protection, ce n'est pas une garantie. La preuve, on l'a ici. C'est un verset que l'apôtre Paul en fait résume quand il dit pourquoi les religieux le rejetaient, etc. En fait, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, oui, le zèle, la religion, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Voilà, ça c'est l'être humain, c'est le religieux. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et que pensait le peuple de Jésus lorsqu'il le voyait? Eh bien, il faut savoir que le peuple, quand il le cherchait, comme nous l'avons vu dans notre passage, pourquoi il courait derrière lui? Le passage nous disait, parce qu'il faisait beaucoup de miracles. C'est une alerte pour nous, une petite communauté que nous sommes, mais grande aux yeux de Dieu. Ne succombons pas aux sirènes des miracles et des guérisons. Bien qu'on nous y croyons, hein. Dieu fait des miracles, fait des guérisons, tout ce qu'on veut. Mais ne succombons pas, n'allons pas courir d'assemblée en assemblée pour chercher les miracles et les guérisons. Il suffit d'ouvrir, aller sur Internet ou sa télé, vous verrez les grandes églises qu'on trouve au Brésil, aux États-Unis, en France. Et souvent les gens changent même d'église, même avant ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des miracles et des guérisons. Le peuple courait derrière Jésus parce qu'il faisait des miracles et des guérisons. Il voulait juste ça. Alors que Jésus dit, non, cherchez à me connaître moi. Mais ça, il peut lui donner. C'est en Christ, mais pas que ça. Ne pouvons peut-être résumer en disant que bien que sa renommée s'était répandue partout, entre le peuple, en réalité, il le suivait par intérêt et de manière superficielle à cause des miracles qu'il faisait. Tous l'admiraient en général, mais ils cherchaient surtout pour être guéris par lui. Alors comment Jésus a affronté ce climat d'opposition et de haine? Toujours dans la paix, dans l'amour. Jamais en rendant le mal pour le mal. Ça justifie ce que je vous ai dit au début. D'abord, son attitude vis-à-vis des religieux politiques, religieux et politiques, bien entendu. Comme conséquence immédiate, le rejet des religieux, Jésus s'est retiré de la synagogue des Juifs et a commencé son ministère au bord de la mer de Galilée. Le Seigneur n'impose à personne. Il s'offre à nous. Il nous propose, mais il n'insiste pas. Nous sommes libres dans notre choix. Il est resté pas mal de temps avec les religieux pour expliquer qui il est, à travers les Écritures, oui, c'est marqué. Et voilà, je suis venu au milieu de vous, mais ça ne fait que la critique, le rejet, la haine, qu'est-ce qu'il a fait? Au revoir. Il s'est retiré vers d'autres. D'autres gens, peut-être, qui ne sont pas des religieux, qui n'ont rien. Ils n'ont pas de théologie, ils n'ont pas fait d'école, ils n'ont pas un bac plus 25, rien du tout. Il allait vers des gens simples. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Son attitude était, je me retire, mais je vais vers les gens qui m'acceptent simplement. Son attitude vis-à-vis de la multitude maintenant, quand il est parti vers la mer, il y a du monde qui sont venus vers lui. Et on nous dit, c'est de partout, pas seulement, il y avait des pays étrangers. Ils ont entendu parler d'un quelqu'un qui fait des miracles. Et ils venaient vers lui. La renommée de Jésus s'était répandue jusqu'à au-delà des frontières juives. Une grande multitude de gens nécessiteux le cherchaient et venaient à lui. Marc fait remarquer qu'il percevait leurs besoins principalement dans le domaine physique, matériel et jamais spirituel. Et pourtant, le Seigneur les accueillait quand même. Ils voulaient satisfaire leurs besoins de ce monde. Mais le Seigneur les accueillait quand même. Voyez. Il semble qu'ils étaient plus intéressés à voir les œuvres et recevoir les miracles de Jésus qu'à écouter ses paroles. Au point de ne même pas faire attention à son intégrité physique, puisqu'il tombait, lui tombait dessus, il pouvait l'écraser. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a demandé à ses disciples, mettez-moi à disposition une barque là-bas. Si aucun vient sur moi, parce qu'ils ne vont pas faire attention, ils vont m'écraser, vous mettez dans la barque, je me sauve. Oui. Où est-ce qu'il est notre cœur? Mais Jésus n'aimait pas ce genre de religiosité populaire qui remplit notre monde aujourd'hui, qui se caractérise par une foi superficielle, intéressée et magique, et à la première épreuve, on quitte. De fait, quand il a expliqué les termes spirituels sur lesquels ils allaient établir son royaume, on verra par la suite, ils ont finalement rejeté et sont revenus sur leurs pas. Ils l'ont abandonné. Cependant, malgré tout cela, Jésus était toujours disposé à les guérir, manifestant ainsi son infinie miséricorde. Il n'y a pas quelqu'un d'amour plus que lui. Mais pour l'avancée de son œuvre, tout cela ne pouvait pas continuer ainsi. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à expliquer et donner des informations précises pour séparer ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui, ceux qui sont prêts à le connaître lui, et ceux qui viennent juste pour ce qu'il fait, mais qu'il abandonne à la moindre épreuve. Un exemple que nous verrons la prochaine fois dans Marc, chapitre 3, verset 31. Et regardez bien, je vous lis. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, écoutez bien, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Normalement, qu'est-ce que tu un être humain normal, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est où ma mère? Ils sont mes frères, mais je sors les voir parce que certainement ils ont des problèmes, je vais les voir. Voilà la réponse qu'il fait, le Seigneur. Le Seigneur, quand il répond, il répond d'une manière céleste, spirituelle. Voilà ce qu'il a répondu. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, Jésus, voici ce qu'il dit. Voici, dit-il, ma mère, mes frères. Donc, il nous donne la définition de la famille spirituelle, mes frères et sœurs. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ce que nous voyons, nous appartenons à une famille spirituelle éternelle. Nous allons vivre éternellement ensemble. Et il dit à ses disciples, vous, les disciples, autour de moi, vous êtes ma famille, vous êtes ma mère, communion. Il a commencé à leur enseigner par des paraboles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le rejet du peuple juif, des religieux, et le manque d'acceptation adéquate de la personne de Jésus l'ont conduit à établir un peuple nouveau. À partir de là, le Seigneur est en train de dire, il y a Israël, mais il y a l'Israël de Dieu. C'est-à-dire toutes celles et ceux qui acceptent comme notre Seigneur et Sauveur et qui sont attachés à lui, nous devenons le peuple de Dieu tant voulu et que depuis la création, le Père a décidé de former en Christ. C'est à partir de cette perspective que nous devons considérer le choix des 12 apôtres. Pourquoi 12 apôtres? De la même manière que la nation d'Israël était fondée sur les 12 patriarches, Jésus a constitué les 12 apôtres comme le fondement et les premières pierres d'un nouveau peuple spirituel, l'Israël de Dieu. En dernier lieu, nous pouvons considérer son attitude envers les démons. Les démons. Comme nous avons vu, Jésus interdisait aux esprits impurs de dire qui il était. Donc il avait autorité sur eux et le seul qui les a vaincus. Si nous sommes confrontés à cela, ce n'est ni le guérisseur, ni l'exorciste, ni le curé, ni le pasteur, ni quoi que ce soit qui peut libérer. Pas du tout. Le Christ seul. Et quand ils le font, c'est en communion avec le Seigneur et le nom du Seigneur Jésus qui a vaincu les démons. Mais il a demandé aux démons même, ne dites rien, taisez-vous. Pourquoi? Parce que Jésus est maître du temps. Ce n'est pas le moment. Il viendra le moment, où il faut annoncer. Mais pour le moment, j'ai un ministère. Il viendra. Il avait autorité sur eux. En conclusion, et je termine. Quel message pour nous en tant que chrétiens et en tant qu'église, après tout ce que je vous ai raconté, comme bobard, on va dire. On peut le prendre comme bobard. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, juste quelques réflexions. Comment percevons-nous le Seigneur Jésus? Est-ce qu'un simple guérisseur, faiseur de miracles? Est-ce une simple religion? Quand je sors d'ici, je continue ma vie? Il nous appelle à continuer notre vie, mais seulement ne pas être égoïste, est-ce qu'on peut l'insérer dans notre vie de tous les jours? Est-ce quelqu'un qui a instauré un nouveau système religieux dans lequel il nous appelle à nous épanouir? Même si ce système s'appelle catholicisme, anglicanisme, appelez ça comme vous voulez, protestantisme, évangélisme, tous ces noms-là, ça n'existe pas dans la Bible, hein, juste je précise. C'est les hommes qui les ont inventés. Hein. La Bible n'a jamais parlé d'église catholique, protestante, anglicane, orthodoxe, évangélique, pentecôtiste, baptiste. Ça, c'est les hommes. Et il ne faut pas mettre la responsabilité sur le Seigneur. S'il y a un responsable, c'est l'homme. Faisons-nous partie de la foule nombreuse qu'il admirait, qu'il courait derrière lui pour ce qu'il faisait? Miracle et guérison? Ou faisons-nous partie de sa famille? La Bible nous parle d'un reste. N'oublions pas que tout le peuple hébreu était appelé à la libération d'Égypte. Ils n'ont pas tous atteint la terre promise. Le chemin est long, mes frères et sœurs. Être chrétien, ce n'est pas accepter le Seigneur. C'est de tenir jusqu'au bout. C'est ça. La Bible appelle reste, appelle vainqueur, beaucoup d'appelés, beaucoup d'amis, peu d'élus, etc. La foule, mais il y a un reste. Qui le suivait pour ce qu'il est. C'est-à-dire, pour dire ce qu'il est, c'est-à-dire je passe mon temps à chercher à communiquer avec lui dans ma solitude, en lui parlant dans la prière et en le reconnaissant comme le Sauveur, le Fils de Dieu, qui offre le salut éternel. Sommes-nous des admirateurs qui abandonnons notre foi à la moindre adversité? Je peux ajouter, sommes-nous des chrétiens du dimanche? Ou sommes-nous fidèles en toutes circonstances? Je termine par un verset qui m'a interpellé. Ce sera le dernier mot, dernier mot que je vais partager avec vous. Matthieu 6, verset 21, je lis. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que Dieu nous aide. Amen.